Bonjour à tous, bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ah, j'ai un écho Rigobert dans mon casque. Peut-être il y a un problème. Voilà, c'est mieux. C'est donc bienvenue et ravi de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto proposé par Kikinkout et Toupal de 11h à 12h30 sur Campus Lille 106,6 ou www.campuslille.com. Au menu de cette émission du sport moto, surtout aujourd'hui parce que nous sommes à H-7-8 jours hein, du Grand Prix de France. Avec nous pour commenter le championnat et aussi le début du championnat du monde de vitesse, Nicolas Poiret, Nico, bonjour, et Claude Bonduel, bonjour. Salut. Effectivement, on est à... J'ai un écho, Rigobert, je ne sais pas comment c'est pas ce qui se passe. Voilà.
C'est parce que tous les micros sont ouverts.
Voilà, c'est voilà, ça. En plus, il ne faut pas ouvrir tous les micros. Voilà. Donc, on voit dans la presse française, qui pourrait... On parle beaucoup de Zarco, hein, parce qu'il nous épate, il nous étonne même.
Ah, il est vraiment étonnant depuis le début de saison. C'est vraiment un pilote qui est top. Enfin, franchement, je suis sur le cul depuis le début de saison. Je pense qu'au premier Grand Prix, même tout le monde était sur le cul parce qu'il avait pris la tête de la course pendant 6 tours. Ce qui est fantastique, c'est la première fois qu'un Français depuis plus de 20 ans, depuis pratiquement celui qui commente, comment s'appelle, Sarron, depuis Christian Sarron. Où il a pris plusieurs fois la tête d'une course en moto Grand Prix. Et depuis, il n'y en a plus. Il n'y a plus de Français vraiment qui ont brillé comme ça.
On a fait une émission spéciale, championnat du monde de vitesse, il y a quelques mois. Et puis, juste avant l'ouverture,
Juste avant le Qatar. Attends, on n'imaginait jamais ça.
On ne pouvait pas imaginer que Zarco allait mener pendant 10 minutes la course. Il a chuté, effectivement, mais quand même aussi, c'était quand même incroyable.
Premier Grand Prix de sa vie, en MotoGP, il se retrouve en tête.
On commençait à se dire, mais...
C'est ça, on se demandait s'il allait aller jusqu'au bout.
Il allait jusqu'au bout quand même. Ouais, c'était, on était tous debout pour applaudir, un peu même devant notre télé. Hein.
Puis il a confirmé surtout, c'est ça qui est bien. Hein, parce qu'une course, c'est bien, il y en a toujours qui brille sur une course. Mais après, pour durer, là, quand même, c'est 4 circuits complètement différents l'un de l'autre. Et à chaque fois, il est quand même placé.
Ouais. À chaque fois, et il progresse. En plus, il progresse.
Ouais. Non, c'est vrai. Il est placé dans le top 5.
Ah oui. Il analyse bien en plus ses courses. Quand on l'écoute bien à la fin, il analyse bien.
Et alors, voilà. Donc, on va parler de ce Grand Prix de France, hein, parce que ça va se passer au Mans.
La
semaine prochaine. Les essais commencent le vendredi, hein, parce que les qualifs, pas les qualifs le samedi, mais après, il faut faire les essais.
Libre le vendredi, oui.
Voilà. On va présenter aussi Stéphane Paulus. Stéphane, bonjour.
Bonjour à tous.
Voilà. Tu es président de l'association Handisport.
Handy Freerider.
C'est ça. Et toi, c'est fantastique aussi parce que tu vas participer au Grand Prix de France. C'est une toute première.
Alors on va participer parce que du coup avec l'association Indy Freerider, donc qui est dédiée aux motards qui ont un accident de la vie et qui souhaitent refaire de la moto sur circuit, et en partenariat avec la FFM, on a monté cette année les Coupes de France Handisport qui sont sur 4 dates, qui ont commencé le 29 et 30 avril sur le circuit Carole. La prochaine épreuve donc pendant le Grand Prix de France moto, donc c'est une épreuve internationale Handisport. Il y aura 32 pilotes, 8 nationalités. 14 paraplégiques, 11 amputés membres inférieurs et le reste des pilotes en amputés membres supérieurs. Donc on a vraiment la chance avec Claude Michy qui est l'organisateur du Grand Prix de France de pouvoir mettre à l'honneur tous ces pilotes et puis de pouvoir faire une course sur la plus belle vitrine du sport moto.
Stéphane, c'est une réussite hein, parce qu'on t'avait rencontré il y a quelques mois aussi et c'était vraiment un projet qui tenait à cœur.
C'est ça, Alors moi depuis 2012 je pratiquais le show mécanique le samedi soir, donc un petit peu d'acrobatie moto malgré l'handicap. Et l'année dernière j'ai eu Claude Michy au téléphone et je lui ai dit mais pourquoi... Moi, si je roule, j'aimerais bien que les copains puissent faire quelque chose à l'occasion du Grand Prix de France. Et même pas un an après, parce que je l'ai appelé en juillet, donc on est qu'au mois de mai, on va être 32 pilotes sur la ligne de départ samedi soir.
Donc, ce sera un départ. On va revenir un petit peu sur comment ça va se passer. C'est un départ lancé, forcément. Je peux pas. Il y a plein de paramètres qui sont un peu différents. C'est quelque chose d'émouvant et d'exceptionnel à la veille du Grand Prix de France d'être sur le circuit du Mans, quand même.
Bah là, c'est même une première mondiale d'une telle épreuve sur le Grand Prix de France. Pour les pilotes, c'est pour la plupart, c'était des motards qui faisaient de la route, qui n'ont pas pratiqué la compétition, qui ont découvert la compétition après l'handicap. Et là, se retrouver sur le Grand Prix de France au Mans devant le public français, je pense que ça va être.
Comment tu as fait pour convaincre Claude Michy d'organiser cette compétition juste en ouverture du Grand Prix?
C'est un travail que je mène depuis 2011. Donc je suis passé par différentes étapes et malgré que je sois en fauteuil roulant, on m'a mis quand même pas mal de bâtons dans les roues. C'était ça a été compliqué. Donc je suis content d'avoir vécu. Ça a été des moments très difficiles, 2012, 2013, 2014, avant de se faire accepter. Et puis aujourd'hui la FFM est avec nous, Jacques Boll, enfin toute son équipe sont derrière nous. Claude Michy a été conquis. C'est même un des premiers qui a cru en ce projet en 2012 en me laissant rouler faire du stunt. Un mec en fauteuil roulant qui monte sur une moto et en plus fait des roues arrière, ça pouvait laisser...
Mais en ouverture aussi du Grand Prix aussi.
Mais voilà,
et en plus... Mais tu étais seul aussi.
Voilà, j'étais seul. Voilà.
Voilà. Très bien. On va continuer notre tour de table. On va présenter François Lors, président des Vieux Clous.
De la confrérie.
La confrérie des Vieux Clous. Ses 30 ans le week-end prochain.
Sa 40e édition.
40e. Alors c'est 40e édition parce que peut-être que le club existait peut-être ou l'association existait avant de commencer les balades peut-être.
Quelques temps avant, mais en tout cas c'est son fer de lance et sa réputation qui s'est fait autour de la balade des Vieux Clous, ou les Vieux Clous en balade. Il y a eu des changements en fonction des années, des millésimes, mais en tout cas on fête cette année la 40e édition.
Alors François, on dit que c'est la plus vieille balade en France, 40 ans de balade, on a beau chercher des clubs qui ont organisé comme ça des balades, mais on ne trouve pas.
Vous êtes les seuls à avoir fait. Je la prends ce matin, je prends le titre, je le mets sous le bras, je m'en vais tout content, et au nom d'une équipe.
Ça ne vous rajeunit pas quand même. Mais...
C'est pour ça que j'ai tout de suite dit qu'on n'était pas trop rouillés quand même, bien que des Vieux Clous. On la connaît.
Il doit y avoir des renouveaux aussi, hein. Je pense que les amateurs
c'est
de
grand
vieilles
sujet.
Motos.
C'est un des sujets, effectivement, sur lequel l'équipe actuelle est sacrément mobilisée. C'est effectivement le renouvellement en gardant les anciens, mais aussi en regardant comment on peut attirer d'autres jeunes sur la moto ancienne.
C'est le problème avec les motos anciennes.
Eh ben, c'est un vrai souci.
C'est un souci.
Voilà. On a pris des décisions historiques sur qu'est-ce qu'était une moto ancienne. Voilà.
Ah, il va falloir faire des concessions quand même. Hein, parce que...
Non, pas des concessions. Des pas en avant, c'est mieux.
Ou alors différentes catégories. Peut-être.
Par exemple, oui. Voilà. Je vois que vous êtes déjà bien au courant.
Mais c'est ce qui se pratique, comment ça s'appelle, sur les AFAMAC et tout ça, les courses moto anciennes. Il y a maintenant 3 ou 4 catégories complètement différentes.
Nous, on est balades. Mais effectivement, on peut respecter ensemble et puis avoir un projet associatif qui fait qu'il y a d'autres propositions dans l'année. On en parlera.
On parlera un petit peu aussi de la naissance, un petit peu de cette confrérie des Vieux Clous, hein, comment c'est né. Et puis, parce qu'il y avait, vous aviez un président au tout début qui était, c'est un monument, hein, on peut dire.
Non, je pense que si on répond tout de suite, la bande de copains du départ fait une balade, enfin un petit rallye, et puis Gilles l'organise, la fait connaître, et chaque année elle se développe, et ça c'est l'histoire un peu de la balade, quoi.
Ouais, très bien. Voilà, on va dire bonjour à notre motard de... Alors, cliquez pas en or, voilà. Bonjour Christine.
Bonjour.
Et puis notre technicien aujourd'hui remplaçant, c'est Rigobert. Bonjour Rigobert.
Salut Cartous.
J'ai un problème d'écho dans mon casque, je sais pas ce qui se passe.
Je crois que ça vient de ton casque, parce que moi j'ai pas de
problème d'écho. Mais bon, c'est peut-être que moi qui entends ça. Voilà. Et puis on va passer un premier morceau de musique et on se retrouve juste après. Voilà. Oh, bah alors, Rigobert, là, c'est fantastique. Là, je m'entends sans effet cathédrale. Ah, bien que quand même, ça, c'est un peu revenu, quand même. Bon, très bien. Donc, on va commencer tout de suite. Claude, on fait quoi, Nico? On parle MotoGP, la catégorie IRN.
Bien sûr, c'est celle qui monopolise tellement d'attention. La preuve, bien c'est sûr. Que il y a une des chaînes grand public qui va diffuser le Moto Grand Prix.
Non.
Si, si, la 3, normalement.
Je suis même pas au courant, tu vois.
Ah, ouais. La 3, normalement, ouais. va diffuser Moto Grand Prix.
Gratuitement, alors.
Gratuitement.
C'est incroyable.
Je pense que c'est pu arriver depuis une bonne quinzaine d'années. Hein.
Ouais, je pense. On va avoir quand même trois Français en MotoGP.
Alors, trois Français.
Ah oui,
trois
Français. Il y a Sylvain Gattoli qui va remplacer.
Donc c'est vrai que c'est pas arrivé depuis un moment aussi. Hein. Bah, trois Français en MotoGP.
Il est sous contrat avec Suzuki en Angleterre. Donc ça facilite les choses. Hein. Donc il y a d'autres personnes qui ont poussé derrière, mais Gattoli va courir.
Ouais. Ça va pas être facile pour lui quand même. Hein. Reprendre le guidon comme
la marche, ça. La marche est grande quand même.
Ça fait 15 ans qu'il n'a pas conduit une MotoGP. Il a fait quelques tests à Jerez la semaine dernière. Mais...
Il avait mis au point au début la Suzuki l'année dernière.
C'est Randy Lepugne qui avait fait la mise au point de la Suzuki.
Il avait essayé, je crois. Ou alors c'était la première année, pas l'année dernière, l'année d'avant encore.
J'ai pas cette information.
Attention Stéphane, parce que attention, c'est Claude, si tu dis qui a gagné en 1956 le Grand Prix de Spa-Francorchamps, il va te le dire. Voilà, oui. Alors, on me fait signe qu'il faut m'éloigner du micro.
D'accord.
Alors, non, au contraire, il faut se rapprocher du micro. Voilà, donc on va revenir donc, sur l'événement.
Ah oui, c'est un événement fort, parce que des Français qui sont dans la tête, ça veut dire dans les 5-6 meilleurs pilotes, il n'y en a pas eu beaucoup hein, dans l'histoire des Moto Grand Prix. Et franchement, Zarco, il scotche depuis le début de saison sur les 5 premiers Grands Prix à chaque fois.
Alors là, j'ai acheté la presse quand même, les revues moto, hein, on lui met la pression un petit peu quand même.
Je pense que voilà, c'est un petit peu dommage.
Est-ce qu'il va nous faire un podium?
Beaucoup de pression.
Est-ce que c'est justement, ça va peut-être pas le pousser à la faute aussi voilà.
J'ai lu un article avec Hervé Poncharal, pardon, ils vont quand même le protéger. Là,
ils vont essayer de le protéger
la semaine du GP.
Public,
il va être sollicité. Lui, il va avoir une pression, je pense. Il a envie de faire bien. Il a envie de faire bien depuis le début de la saison, de toute façon. Et là, d'autant plus à domicile, je pense que.
Mais justement, ça montrera sa carrure si vraiment il arrive à se dominer et à faire une bonne course.
Oui, je pense que ça fera un cap. Si jamais il y arrive avec à passer le cap de ce Grand Prix et à gérer cette pression. Il aura encore gagné et il aura pris un niveau encore supplémentaire.
Parce que la pression en ce moment, c'est plutôt, il veut, tout le monde dit ah mais il va faire un.
Ben, tout le monde le montre. C'est vrai
de là faire un podium, c'est.
Tous les pilotes saluent son talent. Hein. Marquez, il dit, il me fait penser à quand j'ai commencé. Lorenzo, il dit, c'est quelqu'un qui travaille, qui a une bonne attitude, qui progresse.
Ben, dans la...
Et c'est vrai que c'est incroyable ce qu'il a fait. Donc, il a eu les 6 tours en tête au Qatar. Il a fait. Le plus impressionnant pour moi, c'est l'Argentine. Il a fait des très mauvais essais. Il part 14e sur la grille de départ. Et il finit 4e.
Mais il avait déjà remonté au moins 3-4 places dès le départ. Ses départs sont bien.
Il va quand même. Pour lui, Dieu sert aussi. Mais il n'hésite pas à l'attaquer. C'est impressionnant.
Même Marquez, à un moment donné, dans le dernier Grand Prix, à un moment donné, quand il a vu les couleurs. De Zarco, il a cru que c'était Rossi qui était en train de le doubler.
Ouais.
Il l'a dit après, il a dit bah, j'ai cru que c'était les couleurs, et puis il dit non, après je me suis rendu compte, mais sur le moment il pensait que c'était Rossi. Il avait débordé.
Les panoteurs sont habitués à mettre les couleurs de Zarco maintenant, parce que forcément,
maintenant,
on panote les pilotes, les leaders, les 3 ou 4 premières places, hein, et après, bah, forcément, le reste du peloton, on n'a pas leur chiffre. Et puis bah, Zarco, maintenant, on commence à voir qu'ils ont le numéro de Zarco pour dire attention, il est derrière, il a une seconde, deux secondes.
Oui, c'est sûr. Ouais. Ouais, c'est sûr. Il est vraiment. Dès le départ, en découvrant la catégorie, il est dans les top pilotes.
Bon, c'est un discours très français. Hein. On aime bien.
Oui, mais quand même, même vis-à-vis de tous les pilotes qui sont partis chez Tech 3, qui sont passés chez Tech 3, je pense que c'est la meilleure réussite depuis le début de Tech 3 au niveau d'une saison. Bon, avec un nouveau pilote.
Je pense que la moto elle est bonne aussi. C'est quand même l'ancienne moto de Lorenzo et de Rossi l'an dernier. Je pense que la moto, elle est bonne, elle est plus facile que les autres, et parce, pour s'adapter, parce que Folger, c'était pas non plus un pilote, il se débrouille très bien. C'est quand même que la moto doit être particulièrement...
Et Folger marque des points quand même à chaque fois. Pour le,
ouais, il est
le,
top 10,
le,
hein.
Le Team Tech 3, c'est fantastique aussi. Ce début de saison, c'est... je crois qu'il pourrait pas, il avait pas rêvé mieux, je pense, pour Charles, pour ce genre de choses.
Pour Charles, donc, Stéphane, je sais pas si tu le connais. Tu le côtoies.
Je le côtoie, voilà. Hervé Poncharal, Johan Zarco, on s'est vu quelques fois là depuis le début de l'année. Et c'est vraiment une personne qui est incroyable. Je l'ai vu juste après le Qatar pour la conférence de presse du MotoGP. Il avait une analyse et le sens du recul sur sa course qu'il avait menée, et malgré qu'il ait chuté, c'est pas la chute qui retenait, c'était tout le travail qu'il avait fait pour mener ces 6 tours et le travail qu'il avait à faire pour les courses à suivre, et ça a été payant, et je pense que ça va être payant aussi pour le GP la saison à venir. Donc c'est vraiment quelqu'un de très humble. En plus, il a la tête sur les épaules, il a 26 ans, il est réfléchi quand même, deux fois champion du monde,
surtout en Moto 2, surtout en moto 2, c'est une catégorie très très disputée, ils ont tous la même moto, c'est vrai que c'est un petit peu le poker à chaque fois.
Et mais c'est pas parce qu'on est champion du monde en Moto 2 qu'on est forcément après. On peut être champion du monde en Moto GP. Hein. On voit qu'il y a une grosse marche quand même entre.
Il y a un fossé entre les
catégories là.
Non, on voit Rabat, il a du mal. Il était champion du monde en Moto 2.
Il a dominé quand même pas
mal. Par contre, Marquez, il vient de là aussi, et ça a été une bonne formation pour lui.
Paul Espargaro aussi, c'est pareil.
Ils vont faire évoluer le Moto 2 pour qu'il y ait davantage d'électronique et pour que ça prépare davantage au Moto GP. Parce qu'après, c'est ça, c'est les réglages. Et je pense qu'à Tech 3, il est aussi tombé dans une... Ils ont les bases de réglage de Rossi et de Lorenzo l'an dernier, pour la même moto, pour chaque circuit, avec les mêmes pneus, Michelin. Donc ça aide aussi. C'est-à-dire qu'ils partent pas d'une feuille blanche à chaque course. Et donc la moto, elle est déjà pré-réglée, pas mal. Donc après, ils l'adaptent à leur pilotage.
Après,
donc,
tout dépend aussi.
Si on regarde Suzuki... ils ont du mal cette année, et alors que bon, c'est vrai qu'ils ont plus Vinales, mais on sent bien que c'est compliqué. Mais je pense qu'il manque de données pour avoir des réglages propres, des pré-réglages déjà qui conviennent à chaque circuit. Il manque de données. Donc
moi je vous propose, on a une interview de Johan Zarco. Hein, je sais pas si ça vous intéresse.
Ah, bien sûr.
Ouais. On va demander à Gobert si on peut éventuellement l'enclencher.
Voilà.
Très bien. Et est-ce que tu penses qu'on pourrait donc passer cette interview qui dure quelques minutes? Voilà. Okay. Et c'est Zarco, au retour du Qatar, hein, il nous explique un petit peu comment il était dans les premiers tours.
Il se rassure, en fait.
Et il se rassure. Ouais. Et en fait, c'est incroyable parce qu'il raconte un petit peu sa soirée. Et il prend l'avion et puis il va manger avec son voisin le soir, comme ça, tranquillou. Et nous, il était premier pendant 10 minutes. Et puis voilà. On laisse parler Johan Zarco.
C'est parti.
Retour du Qatar, c'est bien passé. Il a fallu faire pas trop vite parce qu'il y avait un vol à 1h du matin, mais celui-là on l'a pas pris parce qu'on savait que ça allait être trop limite après la course. Donc notre vol, il était à 7h du matin. Ça nous a permis quand même de rentrer à l'hôtel, prendre une douche, mais tout juste 2-3 heures de sommeil pour ensuite aller à l'aéroport. Toujours 2 heures avant, il faut être à l'aéroport. On décolle à 7h, atterrir à Paris. C'est l'avantage quand même avec... de faire un direct d'eau à Paris et puis le TGV pour descendre à Avignon. Donc je suis arrivé à 20h30 chez moi et j'ai pu souper avec mon voisin et dormir, et reparti pour le sport mardi, parce que en faisant du sport on récupère quand même et on laisse quand même le corps en activité pour parce que la saison a commencé, il faut être en forme et ça passe par le sport. J'ai eu beaucoup pour réfléchir, beaucoup de temps, et on se demande pourquoi on a chuté. Moi, la question c'est, oui, je sais pourquoi j'ai chuté, je sais pourquoi j'ai fait l'erreur, mais alors pourquoi j'ai fait l'erreur? Et c'est là toutes ces questions que j'ai pu me poser. Finalement, j'ai pu analyser correctement, en parler avec mon équipe et sortir tout ça en disant la perf, elle est super, et je n'ai pas joué le championnat normalement cette année. Donc, je me suis fait plaisir, et ça, c'était trop bon. J'ai fait plaisir aux spectateurs aussi, aux téléspectateurs. Et là, dans ce cas-là, c'est bon pour la confiance et c'est ultra motivant pour la suite du championnat. Journée type, c'est... on va dire que c'est plutôt une semaine type. On rentre d'un Grand Prix, le lundi il est off, déjà il faut le temps de rentrer. Et ensuite le mardi, je vais aller voir le kiné. Parce que d'abord un suivi quand même avec le kiné, c'est bien pour avoir le corps toujours équilibré. Ensuite je pars faire du vélo. Et l'après-midi un peu plus soft pour prendre le temps de déjeuner. Et ensuite le soir de nouveau un peu de sport, ça peut être du renforcement musculaire. Et puis il y a le mercredi où... Là aussi, toujours du renforcement musculaire, plus une activité en allant faire de la boxe, du kickboxing pour le cardio, l'agressivité et toute cette vision. Et toujours du sport. Hein. Et jeudi, vendredi, ça continue. Il pourrait y avoir une sortie vélo, un squash. C'est de l'activité physique. Et ensuite, le week-end, en général, il va y avoir du roulage. Si on ne l'a pas eu pendant la semaine, voilà, jeudi ou vendredi, on peut intégrer du roulage. Ou le week-end, mais souvent le week-end, on a peu de week-end libre parce qu'on peut les combler par l'école de pilotage qu'on a. Donc, même si je peux pas être tout le temps avec eux, lorsque je peux être présent, j'essaie de supporter les gamins et d'aider un peu mon coach et sa femme qui sont très occupés avec l'école. Et finalement, le lundi d'après, on repart déjà sur le lundi ou le mardi d'après, on repart sur un Grand Prix. Donc plus qu'une journée type, c'est une semaine type et ça, c'est comme ça que ça se passe. Où se situe la Tech 3 dans la hiérarchie MotoGP est intéressant. En mettant qu'il y a quand même les teams officiels qui ont plus d'argent et beaucoup de moyens donc pour atteindre le résultat. Il y a l'équipe officielle Yamaha, l'équipe officielle Honda, Ducati, Suzuki, il y a KTM maintenant. KTM débute. Et Suzuki, mentalité japonaise, donc un gros potentiel très fort, et ils l'ont prouvé. Mais je mettrai quand même, grâce à notre moto qu'on a, la Yamaha, presque devant Suzuki et KTM, le Team Tech 3. Donc juste derrière Ducati, Honda, Yamaha, peut-être. Et vu qu'on a quand même une Yamaha, des fois même battre Ducati, qui on sait, une moto ultra performante, mais plus capricieuse. Donc voilà, sur 5... sur au milieu et voir un peu au-dessus. Il y a trois choses. Il y a la puissance. On passe de 125 chevaux à plus de 270 chevaux. Donc on a plus du double de la puissance. Et au départ, on s'attend à ce que ça soit incontrôlable. Mais finalement, il y a l'électronique qui nous permet de passer correctement en virage et de bien utiliser la puissance en sortie. Mais une fois qu'on est bien droit, là, ça accélère à une vitesse et c'est génial. Mais la moto est conçue pour la course et donc le freinage et le passage en virage, il est aussi extrême, plus extrême que la moto 2. En moto 2, si on freine fort, on glisse beaucoup. Et c'est pour ça que ça fait du spectacle, les pilotes moto 2 glissent, mais ils ne font pas exprès, c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et en moto GP, on glisse moins, mais on est plus performant. Et ça, les limites, elles sont vraiment poussées très très loin dans le domaine de l'accélération, du freinage et du passage en courbe. Il faut penser que Vignales, il a 16 ans de moins que Valentino Rossi. Le sport moto, c'est usant. On s'en rend pas compte, mais que ce soit une séance d'essai ou la course, notre cœur, il est entre 170 et 180. Donc c'est comme si on courait un 10 km à fond. Et courir un 10 km à fond, ben on le court mieux à 22 ans qu'à 38 ans. Et ça fera la différence. Et ce qu'il accuse là, il est encore sur le podium ici, quand on était au Qatar. Donc le métier, il l'a. Mais après, vraiment, sur les courses les plus éprouvantes, il pourra tirer la langue. Et je crois que Vignales va prendre le dessus. Mais pas que par le talent, simplement parce qu'il est, oui, doué, mais il a la jeunesse en plus de Valentino Rossi. Et maintenant, l'écart devient important et ça y joue. Sur le coup, on est concentré et de mener la course, c'était génial. C'est après coup qu'on prend plus le temps d'analyser à quel point ça peut m'aider pour la confiance. Maintenant, sur l'instant, c'était contrôler l'adhérence, gérer ses pneus, regarder l'avance que je prends et... De toute façon, ça a duré que 6 tours, donc tout juste 10 minutes et ça passe très vite. C'est d'être le premier débutant. On est 4 pilotes du Moto 2 à monter en catégorie Rennes. Et donc 4 débutants. C'est être le meilleur débutant. C'est un petit prix qui est bien reconnu dans le monde des Grands Prix. Et pour être ce meilleur rookie, comme on dit, il faut au moins être dans les 10 premiers, je pense, constamment. Parce que j'ai mon coéquipier Folger qui est performant, qui a la bonne moto. Il y a aussi Rins qui est allé chez Suzuki. Et là, on vient juste de discuter que la Suzuki, ben, c'est une bonne usine. Loïs sur Aprilia, peut-être plus difficile, mais voilà, au moins être dans les 10 premiers parce que c'est les places qu'eux visent et qu'ils sont capables de faire. Mais maintenant, avec ce super début de course du Qatar, voilà, revoir à la hausse ça et peut-être viser régulièrement du top 5, top 6 en rêvant de podium, ça, c'est un bon objectif, pas prétentieux à se fixer pendant l'année. Moi, je vois Marc Marquez champion du monde parce qu'il sait gérer la pression des titres. Vignales en effet aussi un titre mondial en Moto 3. Marquez en a 5 lui, dont 3 en MotoGP, et il a des difficultés en ce moment, mais il sait ronger son frein et il a un caractère ultra fort, un mental d'acier, et ça fera sûrement la différence tout au long de la saison.
Southern town, northern chili peppercorn, just a looking for a town. another firecracker, wants to walk the hallowed ground. Red hot chili pepper come just to lay his burden down. Firecracker! Well now, hey, firecracker, just put your food around. Well now, hey, firecracker, just put your food around.
Ah, voilà, il y a plein de choses qui se passent dans ce studio. Interview de Johan Zarco, alors qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Vas-y, c'est bien la vie de pilote.
Ouais, c'est impressionnant, c'était intéressant. Hein. C'est vrai qu'il est. C'est sa capacité à vraiment tout analyser et en tirer les conséquences pour aller de l'avant. Hein. C'est vrai qu'il est.
Pas d'énervement, surtout. Ouais. Bien analyser les choses.
Je le trouve très, très zen.
Ouais, c'est vrai.
C'est quelqu'un de très zen. Hein.
Il doit faire du yoga ou un truc comme ça.
C'est vrai, c'est vraiment un personnage qui est impressionnant. Quand
du massage chinois, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je me souviens.
Énormément de sport aussi, hein. C'est incroyable la condition physique qui est nécessaire et il insiste beaucoup là-dessus, il fait du sport énormément. Donc,
et surtout une volonté pour réussir.
Quand tu fais entre 25 et 28 tours sur une moto de 250 chevaux, je pense que physiquement ça doit tirer.
On les voit à l'arrivée, ils sont cuits. Vidés,
hein. Vous avez entendu ce qu'il dit, il est à 180 pulsations donc pendant ça dure combien de temps,
une heure.
Hein, évidemment quand c'est terminé, t'es
quand,
rincé. Hein.
Quand ça retombe, ouais, je pense que.
Je pense que c'est pareil.
Ben voilà, un autre niveau, parce que nous on est pas en moto GP, mais malgré. Du coup, malgré l'handicap, voilà. Quand
combien de chevaux sur ta moto ?
Là, sur la dernière, on a un peu plus de 200 chevaux. 200 donc, chevaux, ouais, 200 chevaux. Et physiquement, on est obligé de bosser parce que c'est super physique. Alors, nous, il y a l'handicap en plus. Donc, tenir une moto et quand on n'a pas le maintien des jambes, tout se passe par le haut du corps et par les bras et ça tire vraiment. Donc,
Parce qu'on sait, pour piloter une moto, il faut aussi serrer les réservoirs. Ça se pilote aussi avec les jambes aussi.
Surtout.
Alors, une moto, elle va là où tu places ton regard.
C'est le regard avant tout.
Voilà. Ouais. Après, pardon.
Non.
Après, dans un deuxième temps, on a adapté les motos donc aux différents handicaps. C'est vrai que pour les paraplégiques, on n'a pas de maintien entre le. On peut pas serrer notre moto ou avoir d'appui même dans les cale-pieds quand on est sur l'angle et
bien
tout
sûr.
Ça. Donc c'est vraiment un pilotage différent de ce qu'on peut connaître. Le plaisir, par contre, est toujours là. Mais on a adapté. On travaille beaucoup avec le haut du corps, avec les coudes pour aller se placer. Et puis ça se passe bien parce que allez, on va dire qu'en moyenne, un pilote avec un handicap est à 4-5 secondes de pilote qui roule en championnat de France. Pour les meilleurs, nous, de notre catégorie. Donc c'est pas non plus, il n'y a pas non plus un fossé qui est si énorme que ça.
Ouais,
donc,
Ah, parce que le pilotage moderne, maintenant, on voit le déhanchement des pilotes hein, pour prendre un maximum d'angle. Ce qui se faisait pas il y a 30 ans.
Oui, hein, non.
Les pilotes, c'était des piquets sur la moto.
L'effet pneumatique fait énormément de progrès.
Énormément. Sur le genou.
Pardon,
on sort le genou
pour avoir l'appui.
On sort le genou, l'appui. Et maintenant, c'est le coude. Maintenant.
Et souvent, c'est aussi,
et l'épaule aussi.
Et l'épaule, les appuis sur le coude, c'est juste impressionnant. Hein.
Ouais.
Loris Basque a posé même l'épaule.
Il s'est même redressé avec l'épaule.
C'était incroyable. Il est tombé et il a monté sur la moto.
Ça a raccroché.
Je regarde François Allers qui a dit. Apparemment, ça l'épate.
Ah bah complètement, complètement. Au-delà de la technique, c'est la simplicité, et l'enthousiasme. Franchement, c'est une belle leçon de vie. Et voilà, au-delà de la moto, c'est déjà ça.
Donc, pour les
entendre parler comme tu l'évoques, c'est extra.
Merci.
Et donc effectivement pour le pilotage, c'est fait de rester donc avec les épaules, les bras.
Voilà, donc on bat tout avec le haut du corps pour les paraplégiques. Après,
et donc vous êtes.
On a une petite sangle entre les deux cuisses, mais qui est pas solidaire à la moto. C'est vraiment uniquement les deux cuisses. Donc ce qui nous rapproche, qui nous colle les genoux au réservoir. Donc voilà, ça permet, ça vous prend quand même des vitesses sur certains circuits.
D'ailleurs, en cas de chute, éventuellement, tu restes pas collé.
Non, du tout. On a des cales pour les paraplégiques, on a des cale-pieds de VTT. Donc avec un petit clip, Donc comme ça, le pied, quand on roule, ne peut pas bouger. Et en cas de chute, ça déchausse comme en vélo.
D'accord.
Voilà. Et la petite sangle, c'est le maintien des cuisses aussi, pour qu'en cas de chute, les cuisses ne soient pas désolidarisées. Et voilà. Après, on a remonté les vitesses au guidon via un shifter, un bouton rouge, un bouton vert pour la montée et la descente. Le frein arrière, pareil, qui était au pied à l'origine, est remonté au guidon. Donc il n'y a pas de transformation sur la moto. C'est des motos de la moto de tout le monde. C'est des modifications qui sont apportées pour la conduite.
Première mondiale, hein. 30 pilotes handicapés, hein. 9 nationalités. Différentes qui vont rouler au Grand Prix de France le week-end prochain.
32 pilotes même.
Ça te met pas un petit peu la pression là quand même c'est mieux.
Ça a été un gros travail depuis que ça a été validé par la Dorna à Valence. Donc lors du dernier GP 2016, j'étais invité à Valence pour finaliser tout avec la FIM et la Dorna. Et j'avoue que j'ai passé un hiver qui a été assez corsé quand même, parce que il y a beaucoup de préparation. C'est faire venir on a des pilotes qui viennent de Colombie, de Finlande, oui, ça, ouais. d'Angleterre, ouais. d'Espagne. Ah. Enfin voilà, faut pouvoir accueillir tout le monde dans les meilleures conditions. Claude Michier a fait un super travail avec toute son équipe pour qu'on puisse faire un beau petit paddock aussi. Il y a les règlements à faire valider, hein, parce que nous, les pilotes français, on roule sur un règlement FFM, mais les pilotes européens, il a fallu adapter un règlement FIM, Europe. Voilà, c'est...
T'es un têtu, hein, non ?
Pardon ?
T'es un têtu, non ?
Ouais, bah, je sais pas, faut demander à ma femme qui est là.
Ça sera peut-être, justement la porte ouverte pour d'autres Grands Prix à favoriser ce genre de choses, on ne sait jamais.
Voilà, c'est vrai que...
Ça peut ouvrir des horizons plus lointains même.
Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a deux ans, on était 5-6 pilotes en France, et qu'aujourd'hui, on se retrouve à 17 pilotes français deux ans après, 30 pilotes à l'international, et on a une finale qui va se faire en Italie, au Mugello, le 26 et 27 août, on va être 45 pilotes. Donc là, pour le moment, on roule les 600 cm3 et les 1000 cm3 tous ensemble. Mais je pense qu'en 2018, on va être obligé de faire deux catégories, une catégorie 600, une catégorie 1000. Ça prend à une vitesse folle. Les gars, parce que moi, je suis un vieux paraplégique, j'ai 14 ans d'handicap. Mais la plupart ont tous 2-3 ans d'accident de la route, donc ont des handicaps depuis 2-3 ans et qu'on rebondit sur la vie avec une niaque. Du moment où ils me contactent, pour certains, 15 jours après, leur moto était achetée, adaptée, était avec nous au Mans. On a eu un roulage le 20 et 21 mars. Il y a un pilote qui est venu le 2 mars. On lui a fait essayer la moto de l'association pour qu'il puisse redécouvrir la moto. 15 jours après, il était là avec sa moto adaptée à son handicap. C'est juste impressionnant. Enfin, moi, j'ai des yeux, ça me fait une volonté sacrée. Pardon ?
Une femme aussi.
Il y a une femme, une fille paraplégique, ouais, Oula, qui va être avec nous, qui a 26 ans, accident de moto, et qui roule parmi les valides, qui a roulé avec nous au Mans pendant les pré-essais qui ont lieu le 20 et 21 mars avec la FFM, et qui roule super bien, elle est super motivée, et maman en plus, et ça n'empêche d'avoir une vie de famille, une vie sociale et sa passion, quoi.
Et comment on fait pour s'arrêter ?
Alors on travaille toujours avec un binôme de personnes valides qui nous tiennent la moto pour les départs et pour les arrêts. C'est d'ailleurs pour ça que l'association est vraiment dédiée au circuit, parce que malgré l'handicap, refaire de la moto sur deux roues sur
la route, c'est impossible.
Alors je l'ai fait, je suis le seul paraplégique de France.
Il a même fait sur la route, il est parti au Grand Prix de France en spectateur.
Ouais, tout à fait.
Tu nous avais raconté cette histoire.
Une béquille stabilisatrice commandée par un petit verre électrique, ça me permettait de m'arrêter au péage, de mettre de l'essence sans avoir à descendre de la moto. Mais voilà.
C'est un peu gonflé quand même.
C'est un peu chaud.
C'est un peu chaud. Il t'arrive une crevaison, il t'arrive tas de choses. Ça peut vite partir en une panne électrique, ça se déplie pas. Ouais. J'ai eu le cas du contrôle de police où ils m'ont pas laissé sur la route, ils m'ont mis dans la terre, et quand j'ai déplié la béquille dans la terre, forcément, je me suis coupé. Ouais. Il pensait que je rentrais du bon avec 4 grammes dans chaque œil, mais non, j'étais bien lucide.
Bon, bah, c'est vrai. Nous, on n'est pas trop délurés, quand même.
Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est mis au circuit, et on roule avec toute la sécurité nécessaire, les ambulances sont là, enfin, on chute. Voilà, si on chute, c'est qu'on a roulé au-dessus de ses pompes ou qu'on se fait percuter, donc ce qui est un peu quand même moins risqué que sur la route.
Ouais, il y a du dégagement.
Tous ces pilotes, une fois qu'ils sont sur la piste, que le départ est donné, ils sont comment ils sont acharnés c'est le premier qui gagne
Une fois qu'on est
sur la piste, et on pense plus
On se prend en jeu.
Hein. On se prend en jeu.
De toute façon, même du
quand on est dans le paddock, on se parle, on se dit bonjour, forcément. Mais après, une fois que.
On est tous copains, mais quand on part à la guerre comme à la guerre. Donc c'est parti quoi. Tout le monde veut
tirer le bloc passe, trajectoire.
Voilà, alors on c'est pas encore agressif. pour les premiers, là, ça commence à rouler fort. Enfin, moi, on a fait la première course. Je fais premier la première manche du matin. Et la deuxième manche de l'après-midi, j'ai pas réussi à garder ma première place. Hein. Je me suis fait prendre. Et voilà, tous les pilotes progressent. Donc, ça commence à avoir du vrai challenge et des belles courses. Donc,
Est-ce que les stars viennent vous voir?
Ouais, quand même, on a un super.
Les Lorenzo, les Rossi.
Alors, sur le GP, pour rendre l'équipe, je suis le seul à connaître un peu ce milieu-là. Donc, forcément, j'ai eu accès à certains nombres de pilotes où je suis accueilli. Je me souviens avoir fait le show au GP de France l'année dernière. Donc, le show mécanique. Et à la fin du show mécanique, il y avait Lucio Cecchinello qui est venu me voir pour me féliciter. Mais c'était juste incroyable. Je lui ai dit, mais non, c'est moi qui te félicite. C'est toi qui m'as fait rêver dans les années 2000. Et là, aujourd'hui, il vient, il te fait la bise et puis il te dit, félicitations, c'est formidable ce que tu fais. Mais c'est juste incroyable. Et puis, c'est accueilli quand même par le monde du Grand Prix à bras ouverts.
Alors, il faut dire que dans d'autres pays, ça existe depuis quelques années, hein, ce championnat en e-sport.
Alors, en Italie.
Mais pas en France.
Ah, si, en France. Alors, pour la petite histoire, moi, je roule depuis 2012. 2013-2014, j'ai été bloqué de licence compétition pour rouler parmi les valides pour des questions de sécurité. Et en 2015, il y a l'association Diversament Disabili en Italie qui a créé une épreuve internationale. Donc voilà, différents pays avec différents handicaps. Et eux m'ont contacté par les réseaux sociaux en 2015. Je suis parti rouler avec eux. Je suis revenu avec le titre de premier paraplégique, premier en catégorie 1000 cm3, donc ça a été pas mal médiatisé. Il y avait le journal Moto et Motard avec l'émission Outside qui était venu faire un reportage. Et après, je suis parti au Portugal faire une endurance, les 300 km sur la même année, hein, toujours 2015, 300 km, Luis Carrera, donc 22 équipages valides. J'étais le seul pilote handicapé avec mon coéquipier, lui qui était valide, donc a pris le départ façon Le Mans. On finit troisième parmi 22 équipages. Donc ça a été beaucoup médiatisé. Et en fin 2015, j'ai dit à la FFM, 2016, il faut qu'on fasse quelque chose. Moi, je commence à avoir beaucoup de pilotes dans l'association, il faut qu'on crée quelque chose. Ils m'ont dit, banco Stéphane, on y va, on te suit. Pendant 4 ans, j'ai galéré. Et 2016, ça a été le feu vert de la Fédé, ils m'ont suivi.
Donc tu étais mis président, voilà. Tu as créé ton assos.
C'est ça,
voilà.
Andy Freerider, voilà. Et puis c'était parti.
Et dimanche prochain, enfin samedi prochain.
Soir prochain, on va prendre le départ au
jeu. Incroyable, super, formidable.
Voilà. Ouais. Bravo. Voilà. François, là, bon, c'est dommage, Stéphane, tu ne pourras pas assister à la 40e balade de la confrérie des vieux clous. Quoi.
Bah ouais, c'est...
C'est des transitions de compétition.
Ah non, mais c'est vrai qu'il y a des véhicules que je n'avais jamais vus. Il y a une bonne dizaine d'années, j'ai vu un sidecar Triumph des années 20, mais long. Mais alors, je n'ai jamais eu une moto aussi longue, avec une double siège derrière.
D'accord.
Et surtout, le baquet, c'était un sidecar, c'était en osier, deux places fermées. Alors là, ça, j'avais jamais vu avec deux portes sur le côté pour mettre deux personnes dedans.
Ça permet de voir un petit peu les motos.
Les choses qui ont évolué.
On se raconte tous nos. Parce qu'on a des anecdotes, on en a plein. De toute façon, ça, c'est clair. On peut faire même toute une journée.
On va revenir au Moto Grand Prix, peut-être.
On va revenir à notre sujet principal. Mais je propose de passer un morceau de musique. Et puis, on va parler. Parce qu'on a parlé beaucoup des Français, mais c'est normal. C'est notre Grand Prix à nous, France, Le Mans. Voilà. Et après, il y a notre ami Lorenzo qui apparemment commence un petit peu à bien s'habituer sur cette moto, cette Ducati.
Disons que le dernier Grand Prix est monté sur le podium.
C'est son Grand Prix. Ouais. Il a toujours joué placé là-dessus, sur ce Grand Prix-là.
Donc il faut voir.
Et deux faux pas de Vinales et de Rossi aussi, il faut le dire.
Il a bénéficié de la contre-performance de Yamaha officielle.
Oui, mais c'est les pneumatiques
là, qu'ils
ont
passé,
au niveau pneumatique.
Et Rossi
qui
était bien parti. Parce qu'on dit toujours aussi, mais il est vieux, bon, d'accord, ok. Ouais, il dit, Zarco dans son interview, il voit pas Rossi. Et il est quand même actuellement
premier du championnat.
Il est toujours
leader.
Ils sont
à 3 ou 4.
Il a 38 ans, mais
15 points d'écart.
Il y a très peu d'écart. Ouais.
4 à 10 points d'écart.
4 à 10 points.
Alors je suis désolé, mais quand même, on peut pas le mettre dans le bac.
Rossi, sa priorité, c'est plus les essais libres et les qualifs. Il lui s'en sert pour travailler et pas pour faire une performance. C'est sur la course.
C'est une bête de course.
Mais tout à l'heure, vous disiez que oui, Lorenzo, c'est sa course, mais. Il a quand même fait une belle course. Il revient. Rossi n'était pas dans le coup. Vinales a eu du mal. Lorenzo a fait une belle course. Il faut s'adapter. Même que ce soit son circuit, que ce soit chez lui, il a eu du mal.
On en parlera, Stéphane, parce que cette moto, elle doit être particulière.
Voilà, la Ducati, je pense que ça peut être...
C'est pas le premier à.
avoir des problèmes avec ça, de pilotage. Hein.
Je pense
Lorenzo, c'est quand même un bon pilote.
Ah, c'est un excellent pilote.
On peut pas dire que c'est
un excellent pilote, c'est évident. Voilà. Ouais, il était champion du monde plusieurs fois. Bon,
et, surtout cette année, ils ont changé des chaînes chez Ducati et ça ne va pas non plus
je me souviens bien que le seul pilote qui a réussi à dompter cette moto, cette machine, c'est Stoner. Oui, et qui a été champion du monde en plus.
Il était champion du monde avec, ouais.
Et donc, et même Rossi s'est essayé sur cette moto.
Mais
il s'est cassé les dents là-dessus. Hein, voilà.
On est loin de la moto de Stoner maintenant. Hein.
Oui, c'était à 800 cm3 Stoner, d'accord.
Elle a beaucoup évolué.
Les choses n'ont pas.
Elle reste la plus puissante. Elle reste la plus puissante moto du plateau.
Mais il doit y avoir certainement une manière de la piloter. C'est un peu. Bon, on va passer un morceau de musique, Rigobert. Et si tu le. Voilà. Et après, on va revenir un peu sur ce Grand Prix de France dimanche prochain, enfin c'est le week-end prochain à partir de jeudi. Voilà, c'est le magazine de la moto, c'est tous les dimanches,
de 11h
à 12h30. T'es sur Campus Lille, 106,6 ou 3W Campus sur Internet, quoi. Un petit moteur de recherche, on met Campus Lille et ça marche. Voilà, on revient un petit peu donc sur ce Grand Prix de France qui aura lieu donc dimanche prochain. Ça va commencer à partir de jeudi, hein, les essais, toute la caravane. Avant, on appelait ça le Continental Circus.
Continental Circus, oui. Très longtemps, oui. Mais cette saison ici, elle va être quand même assez importante. Il y a eu beaucoup de changements de pilotes, de motos, puisqu'il y a KTM qui court maintenant, qui avance tout doucement, mais KTM, pas mal.
C'est pas terrible, quand même.
Ils n'ont pas fait mieux que la 14e
place. Sa première saison.
Ils sont à la traîne, quand même.
Et je pense
qu'il y a... 14e place.
Ouais. Mais cette saison, on a surtout vu éclater Vinales et Sayama. Au début de saison, tout le monde le pensait déjà installé, invincible.
Ouais, c'est Marquez, il va mettre la pige à Marquez.
On s'est même dit ça au troisième Grand Prix, il est tombé.
Il a fait une chute et une sixième place la fois dernière à Jerez.
Sixième place.
Donc il n'est pas invincible. Ouais. Bon, après, il y a une drôle d'histoire avec ses pneus. On ne sait pas trop ce qui s'est passé.
Rossi aussi, hein, c'est pareil.
C'est bizarre. C'est les deux motos officielles Yamaha, elles ne fonctionnaient pas, les pneus ne fonctionnaient pas sur ce circuit de Jerez. Et pourtant, il n'y a pas eu de problème pour Zarco. Il a fait une belle course. Donc, on ne comprend pas trop. D'autant que Vinales, au warm-up, il avait meilleur temps. Le lendemain, il y avait des essais libres. Il a de nouveau le meilleur temps. Et pendant les essais, c'était très correct. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Un mauvais pneu. Alors, c'est bizarre. C'est assez marrant. On le questionne là-dessus. Il dit, je peux pas vous répondre. Je vais avoir un email. Donc, tout le monde s'interroge. Il va avoir un email. Et pendant le Grand Prix, il y a eu un autre petit souci. Il y a eu Miller et Bautista qui se sont accrochés. Et Bautista, il est toujours un petit peu à l'arrache dans son pilotage. Il a poussé Miller. Ils sont tombés tous les deux. Et Miller, il était un petit peu en colère. Il l'a poussé. Quand il s'est relevé, il l'a repoussé pour qu'il retombe. Et puis, il a donné un grand coup de pied dans sa moto. Et Miller, un petit peu après, on lui dit qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il donne sa version. Et il dit, j'ai reçu un email. Ah, donc c'est quoi un email? Donc on lui demande, parce que ça commence à bien faire cette histoire d'email. Et donc on lui demande, et il dit un email, c'est tu reçois un email, c'est marqué 1 000 € à payer sous 5 jours, autrement tu peux plus prendre le départ.
Ah bon?
C'est la Dorna.
Ah ouais?
Donc voilà. Donc en fait, s'il dit du mal, Vinales de son pneu, il va se prendre un email, donc il dit rien. Donc il dit, je peux rien dire, autrement je me prends un email. Donc on a commencé à comprendre ce que ça voulait dire cette histoire.
Pas de...
Mais ça devient bizarre, hein. Il y a plein de trucs comme ça. On les a vus avec des... ça se resserre au niveau règlement à la Dorna, c'est terrible. On voit maintenant les gens, ils ont des casques de vélo sur le paddock. Quand on n'a plus le droit d'être sur le paddock.
Ça va faire une belle transition avec Benoît qui vient d'arriver.
Avec la manif d'hier.
La manif d'hier.
Les gants homologués.
On commence aussi à l'avoir maintenant.
Il faut des casques homologués. Ouais.
Sur les circuits aussi, ça commence à devenir
puis c'est un petit peu ridicule.
Un manque de liberté. C'est littéralement un manque de liberté.
C'est un petit peu ridicule, c'est de l'affichage. En quoi un casque de vélo, ça va apporter de la sécurité à des gens qui encadrent un pilote qui vient d'arriver dans son paddock? C'est un petit peu de l'affichage. Et donc, on est vraiment dans une société qui développe, n'est-ce pas?
Voilà.
Il faut savoir que...
Benoît, bonjour.
Bonjour à tous. Ouais.
Voilà. Donc, hier, grosse manif.
Ouais, grosse manif.
Cocorico, grosse manif. Nous, les gens du Nord, parce que...
Écoute, oui. Alors, d'après les derniers chiffres officiels, on va dire, de ce matin, on était entre 600 et 800. Après, ça dépend de qui on se place, si c'est les forces de l'ordre ou les organisateurs. Nous, on dit 3000.
On divise par deux.
Mais 600, 800.
Grosse manif quand même hier. Hein.
Grosse manif, ouais. Encore une fois, les gens du Nord sont présents, sont mobilisés et sont. Voilà, on a fait le boulot comme il faut. Donc, on est parmi les plus gros rassemblements de France parce qu'en général, un peu partout, ça fait entre 300 et 400. C'était quand même une manif nationale. Il y en a encore aujourd'hui. Hein, c'était 13 et 14, un petit peu moins le dimanche, mais il y en a encore aujourd'hui. Voilà, Limoges. Il y a tous les copains de France qui ont manifesté. Beaucoup d'antennes qui se sont même rejoints. On prend la 51, ils avaient, je ne sais plus, 6-7 antennes avec eux pour faire une belle manif. Donc non, c'est bien. Après, voilà, derrière la manif, il y a encore un petit peu de boulot. Il y en a un petit peu avant et on regrette des fois d'en avoir beaucoup avant et de ne pas être assez nombreux pour le faire. Hier, on a eu un service d'ordre vraiment au top. Enfin, aucun souci de notre côté. Ça s'est vraiment bien organisé. Tous les motoclubs nous suivaient. Voilà, ça, je leur tire mon chapeau parce qu'il y en a beaucoup qui vous écoutent. Et puis ça s'est très bien passé. Je pense. Hein, nous, de notre côté, ça s'est bien passé. J'espère qu'on aura quelques retours des participants.
Il y a eu un petit problème sur la 1, mais bon.
Oui, c'est indépendant de nous. Hein,
non, c'est vrai que les gens qui nous voient passer, ils prennent leur portable et ils filment. C'est aussi un travers. Et pendant qu'ils filment et qu'ils klaxonnent pour nous regarder, ils ne regardent pas la route. Voilà. Et une manière de se retrouver sur le tour.
Il y a eu un petit carton hier. Ouais. Ce qui les a surpris, c'est que l'autoroute était complètement fermée. Voir une autoroute déserte, ça fait quand même un peu bizarre. Et quand d'un coup, tu vois débarquer un petit millier de motards sur l'autoroute, ça peut surprendre. On peut le comprendre. Alors malheureusement. Après, alors, si voilà.
Rappelle, pourquoi cette manif, hein? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein.
Ouais. Alors là, c'était voilà.
Les plaques stupides, hein, voilà. D'agrandir la plaque, alors que les chiffres, ils restent pareils.
Des plaques qui étaient homologuées, qu'ils ne deviennent plus.
Oui, voilà.
Donc aussi, c'est ça qui débile.
Et puis qui dit plaque dit aussi certificat d'immatriculation, donc carte grise. Et carte grise a changé, ça fait un petit peu de pognon dans la caisse de l'État. Bizarrement, ça passe un petit peu à l'as. Ah, voilà, c'est la motophobie ambiante. Ça fait, comme on dit, plusieurs décennies qu'on tape un petit peu trop facilement sur la moto. Alors certes, on a été pendant très longtemps les vilains petits canards des chiffres de la sécurité routière. Ça n'est plus le cas depuis maintenant plusieurs années. Alors même si voilà, ces accidents sont toujours dramatiques et terribles, mais les statistiques prouvent qu'il n'y a pas plus d'accidents sur les deux roues motorisées que sur les autres, voire même moins maintenant depuis quelques mois. Donc voilà. On peut le mettre de notre côté, l'État le met aussi du côté du sien. Nous, on considère que c'est pas une plaque d'immatriculation 4 cm plus grande qui va sauver la vie des gens. Par contre, une meilleure formation, un meilleur équipement, un meilleur partage de la route, là, oui, il y aurait des choses à faire là-dessus, et malheureusement, là-dessus, ils nous suivent pas. Donc on leur rappelle. Alors quand on leur rappelle, on siège au Comité national de sécurité routière. Là, il y a quand même notre coordinatrice nationale, France Wolf, qui vient d'être élue président d'une commission. Donc on va dire, on monte un petit peu d'un cran au sein de cette commission. C'est toujours des avis consultatifs, mais au moins l'avis des motards est représenté. On nous écoute. On nous dit souvent que ça ne sera pas à grand chose, mais si on n'y était pas, je vous laisse imaginer ce qui se passerait. Donc voilà, on fait les choses, on fait en sorte que le motard soit protégé, soit un peu plus à même de prendre sa place vis-à-vis des usagers. C'est souvent malheureusement ce qu'on nous reproche en disant ouais, mais vous les motards, vous êtes que 2% de la circulation, donc vous ne représentez pas grand chose. Par contre, vous représentez un nombre important d'accidents.
Et si on faisait notre parti politique ? Avec un président.
Ouais. Bon, on va déjà rester.
Avant, les chasseurs et pêcheurs, ils avaient un.
Ouais. Alors, il faut savoir que ce qu'on fait, c'est de la politique. Hein. Souvent, on met une.
Pourquoi ça va pas on met... ça, c'est ouais. une bonne idée, quand même.
On met une mauvaise image sur la politique.
Mais bien sûr. 2 millions de voix. Ouais.
La miche président.
Alors, François, qu'est-ce que t'en penses?
Alors,
il y aura un second. Après, en route, tu serais en marche.
Voilà.
En marche.
Au guidon, bien, ça marcherait aussi. Non, alors après, voilà ce qu'on fait. C'est de la politique, hein. faut pas se voiler la face, hein. Faut pas non plus. Mais c'est de la politique. Quand on les interpelle et quand on rencontre, comme hier, monsieur le préfet du Nord, et puis qu'on lui explique un petit peu notre cahier de doléances, il y avait quand même 10 ou 12 points, quoi. Ils nous écoutent quand même, et puis ils se rendent compte que c'est un peu partout en France, qu'ils vont tous avoir les mêmes problèmes. Ils ont le cul entre deux chaises, parce que d'un côté, ils ont des décisions gouvernementales appliquées, ils ont des choses qui nous dépassent un petit peu, nous, usagers de la route. Mais comme dit, ils n'ont pas malheureusement que les usagers de la route à gérer, ils ont tout le reste qui va avec. Mais quand on fait les choses bien, calmement, posément, et avec un millier de motards derrière, en général, ils nous écoutent un petit peu plus attentivement, on va dire.
Et puis alors, comme tu disais hier, bientôt, ce sera les élections législatives.
Voilà.
Alors, donc, ils sont à notre écoute, là.
Ouais, bien sûr.
Les élections sont toujours à notre écoute, hein.
La date était.
Donc il faut envoyer des courriers, des emails aussi.
Voilà.
C'est 1000 euros.
Voilà, on va prendre un exemple sur la Dornan. On va envoyer des emails aussi. Donc moi, je vous invite. Hein.
Voilà.
Là, les députés sont en campagne, hein, parce que voilà, et la cantine est bonne, donc ils s'y représentent, comme on
bien
dit.
Bien sûr.
Donc ils sont en pleine campagne. Alors les anciens, c'est pas trop la peine de les embêter, parce qu'eux sont déjà en vacances, ils ont déjà fini. Hein, donc, ou ceux qui se représentent. Par contre, ceux qui arrivent, il faut pas hésiter à aller les interpeller et puis leur poser juste deux questions. Alors vous trouverez sur le site de la Fédération française des motards en colère toutes les infos. Qui vont vous permettre éventuellement de dialoguer avec ces gens-là, mais leur demander déjà ce qu'ils pensent des interdictions de circuler, parce que c'est bien beau de nous mettre des gants homologués et des plaques de 3 mètres par 4, si bientôt on peut plus sortir les motos.
Il faut que tu expliques cette histoire du vignette.
Voilà. Alors ouais,
ça m'intéressait,
voilà.
François.
Ouais, bien
François
sûr. Surtout que c'est très récent.
Je sais pas si tu es au courant.
J'écoute.
Voilà, la sacrée vignette critère. Alors ouais, mais bon, malheureusement, ça va pas concerner que les vieux clous. Excuse-moi, Christian, mais ça va concerner tout le monde parce que les motos d'avant 2000, ça représente quand même un parc important de véhicules et ils vont être impactés par cette mesure comme les voitures d'avant 97. Donc en fait, il y a un petit truc qui est passé en catimini là avant de partir. Les socialos nous ont fait encore un coup de vache, comme dirait Jean-Yves, pour être poli. Le 5 mai, donc c'est très récent, hein, ça fait 8 jours, ils nous ont sorti obligatoire, avec un texte dans le code de la route, paru au journal officiel, la vignette critère. C'est-à-dire que maintenant, vous allez devoir, pour circuler lors des pics de pollution, avoir la vignette critère, sinon vous êtes verbalisable. Ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'elle n'était pas obligatoire. Maintenant, elle est devenue obligatoire.
Et c'est 4 euros.
Et c'est 4 euros la vignette, mais c'est 68 euros, je prends la prune. Hein,
la prune, ça
voilà, donc tant qu'à faire. Voilà. Donc quelque chose qui devait pas être obligatoire, qu'ils nous ont vendu gentiment avant les élections, maintenant qu'ils sont prêts à partir, bah, nous en remettent une couche, quoi. Alors, c'est passé, hein, c'est passé au journal officiel, donc ça va être difficilement...
C'est roulé,
facilement attaquable, ouais. Mais on va se battre encore.
On va faire des photocopies.
Ouais,
non, mais voilà. C'est par véhicule.
Ah oui, bien sûr. Ouais,
c'est donc si t'as une moto, une bagnole ou deux motos...
T'additionnes, et puis il faudra ta vignette pour circuler, c'est ça le pire, quoi. C'est vraiment une interdiction de circuler ou une exclusion de circuler des gens qui n'ont pas forcément... Alors, c'est pareil.
La vignette, la FFMC, ça nous parle, parce qu'elle est née de la vignette.
Bien sûr, on est née de la vignette, ça va être notre combat du 21e siècle.
Exactement, et on revient au même niveau, quoi. Ouais, c'est dingue.
Ouais, ouais. Donc voilà, cette vignette, hein, et puis après, tout le reste qui va derrière, quoi, parce que...
Est-ce que tu crois que manifester, maintenant, ça devient suffisant?
Non. Bien sûr.
Alors hier on a fait une interview où on a pris des jeunes, on a pris des vieux, ouais. On a pris des femmes, des hommes, voilà.
Ouais. T'as fait de la parité, c'est bien.
Oui, parité. Ouais, ouais. Mais j'étais avec aussi quelqu'un qui voulait la parité.
C'est bien. Donc, voilà.
Et puis ils disent, manifester c'est bien, ça fait toujours plaisir de se rendre, d'être en nombre. Ça montre qu'on est solidaire, bien sûr. Voilà. Ouais. Mais est-ce que c'est suffisant?
C'est surtout pas suffisant. Derrière, il y a des choses à faire.
Il y en a qui m'ont dit, il va falloir passer à des actes plus comment dire, des trucs de, je sais pas, tu vois, plus violents, quoi.
Ouais. Voilà. Ouais. Je suis pas partisan de la violence.
Quand tu te rends compte que tu manifestes, il y a comme des gens, il y a 800 personnes hier, et que de toute façon t'es pas entendu.
On a été entendu quand même, parce que le préfet, on a demandé à le rencontrer, on a pu le rencontrer, ce qui était quand même pas gagné d'avance, parce que ça fait plusieurs fois qu'on le demande à rencontrer, on n'avait jamais pu. Là, avec cette manifestation, il a quand même daigné nous recevoir un samedi après-midi. Hein, donc voilà, le Pas-de-Calais a fait pareil, ils ne devaient pas être reçus, ils ont été reçus. Partout dans les antennes, en général, on a été reçus par les préfets, qui sont aussi maintenant préfets de région, parce que avec toute la réforme des circonscriptions, ça a un petit peu changé aussi de leur côté. Donc on espère bien que ça va remonter un petit peu plus haut. Et c'est toujours pareil, cette mobilisation qui était bien faite hier, bien faite partout en France, ça remonte. Si on fait une manifestation dans une antenne un jour, ça ils s'en foutent. Quand il y en a 10-15 par week-end, sur un week-end, sur un mot d'ordre tous le même, tous pareil, ils nous écoutent un peu plus vite. Et puis ça remonte un peu plus vite dans les strates. Hein. Tu sais, c'est un peu comme la merde. Hein. Quand on marche dedans, on sent qu'après, quand ils sont dans la merde, des fois, ça remonte un peu à leur narine et puis et ça enfume un peu le cerveau. Donc voilà. Et puis après, on n'exclut pas. Enfin, il y a plein d'autres choses. Hein. Là, on parlait des députés, mais c'est eux qui vont être importants, parce que c'est eux qui décident des lois. C'est pas la présidentielle, c'est malheureusement pas le président de la République, ce serait trop facile. Mais c'est tous les députés. Et les députés, c'est maintenant qu'il faut aller les interpeller. Donc, comme je disais, il y aura tout sur le site. Ils sont déjà sur le site de la Nationale, mais nous, on va en faire un pour le 59, avec un argumentaire très simple. En interpellant les députés qui sont sur les marchés, les brocantes en ce moment, c'est la mode aussi, ça revient, et bien leur dire justement qu'est-ce qu'ils comptent faire pour les interdictions de circuler. De tous les véhicules, hein, parce qu'on ne voit pas spécialement par les motos, mais des interdictions de circuler. Alors la plupart disent « Oh non, on fera rien », mais voilà. Si vous faites rien, on vous attend, parce que quand vous serez élu, on vous demandera de rien faire non plus. Mmh. Voilà, parce que c'est eux aussi qui vont décider. Et puis après, comment ils vont prendre en compte la sécurité des usagers vulnérables? Parce que c'est pareil, on parle souvent des... Alors nous, on parle pour les motos, mais il y en a plein d'usagers vulnérables. Il y a les piétons, il y a les cyclistes, il faut aussi pas les oublier, il faut surtout pas aller contre eux, parce que on n'a aucun intérêt. Mais c'est malheureusement pas pris en compte. On parle souvent de la sécurité routière pour les voitures, mais il y a aussi la sécurité routière pour tous les autres usagers. Et les plus vulnérables sont parfois oubliés. Donc c'est deux questions toutes simples. Et puis il faut leur parler. Il faut faire prendre conscience à ces gens-là que les citoyens sont des usagers de la route, sont responsables, réfléchissent, proposent des idées, font avancer les choses. Et c'est très important de leur rappeler. Donc je pense que la manifestation, c'est une chose parmi tant d'autres. Mais les interpeller sur un sujet qui les préoccupe, ça peut aussi faire bouger les choses.
Bon, on y croit, hein.
Il faut pas lâcher. On lâche rien. C'est le mot d'ordre.
Très bien. On va passer à un morceau de musique et après on va parler balade avec notre ami Franz Wallers.
Écoutez la petite guitare. On est un peu jaloux qu'ils arrivent avant nous, mais on les laisse passer dans les embouteillages quand les motards te font merci avec les pieds, merci avec les pieds. Ce ne sont pas des êtres humains, mais une espèce de martien terrien. Ils ne connaissent pas la langue des mains. Il faut les voir foncer libres comme l'air, heureux comme des goélands. Ils ont l'air épanouis, un casque sur la tête et à leurs mains des gants. Ils font tout sur leur moto, mais la seule chose qu'ils ne pourront pas, c'est dormir en roulant, sinon le drap s'envolera, tu comprends? Dans les embouteillages, tu penses au temps, autant coûtant, où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les Harley à crédit, les japonaises débridées, passent entre les camions citernés, les 4L de pompiers. Les filles sont en voiture, contrairement aux motards qui sont en moto, bien qu'il y ait les filles en moto, mais sous leur cuir on ne les voit pas bien, on ne voit pas leurs seins. Surtout que sous un casque on peut pas deviner si c'est un vieux hippie, un vieux skinhead ou une pure beauté. Si par hasard dans un embouteillage tu croises la femme de ta vie, mais assis à côté d'elle il y a déjà un petit mari barbu mais gentil. Remballe ton sourire de vôtre, tourne la tête pour ne pas avoir l'air idiot, et fais semblant de réparer ta radio, de redresser ton rétro. Remballe ton sourire de vôtre, tourne la tête pour ne pas avoir l'air idiot, et fais semblant de réparer ta radio, de redresser ton rétro. Alright. Dans les embouteillages, tu penses au temps, autant qu'au temps où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les Harley à crédit, les japonaises débridées, passent entre les camions citernés, les 4L. Dans les embouteillages, tu penses autant, autant qu'autant, où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les Harley à crédit, les japonaises débridées, passent entre les camions citernes et les 4L de pompiers, virgule. Quand les filles se maquillent dans les rétroviseurs, moi j'ai même pas peur qu'elles oublient de freiner les routiers du haut de leur cabine, les traitent de femmes au volant, mais en secret ils aimeraient bien les emmener. Amoureux des sirènes, les ambulanciers sont les marins des départementales, salauds de séducteurs, ils ont une infirmière dans chaque hôpital. Ils collectionnent les filles, ils multiplient les aventures, et leur spécialité, c'est l'amour en voiture. Sais-tu qu'il y a des infirmiers qui soignent les blessés en leur mettant des disques et des cassettes, la musicothérapie au service de la fracture ouverte. Pour un lumbago, Nougaro ou alors Django, une jambe cassée, ACDC, et c'est soigné. Dans les embouteillages, tu penses autant, autant coûtant, où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les Harley à crédit, les japonaises débridées, passent entre les camions citernes et les 4L. Dans les embouteillages, tu penses autant, autant qu'autant, où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les Harley à crédit, les japonaises débridées, passent entre les camions citernes et les 4L de pompiers.
Merci Marcel pour ce morceau qui colle bien avec cette émission quand même, voilà. Non, bah Marcelo, c'est Rigobert, c'est toi qui l'as mis. Bref. Voilà. On va parler balade. Donc c'est le week-end prochain, ça va commencer jeudi. Jeudi.
Vendredi.
C'est vendredi, hein, vendredi.
Vendredi 19, oui. Samedi 20.
Vous allez chercher les Anglais à Calais?
Eh ben non.
Oh bon, bah alors, oh, j'ai tout faux.
Ça vaut le coup de préparer des fiches. Donc oui, le vendredi, direction Saint-Omer. Et puis, point de rendez-vous pour le déjeuner où, effectivement, depuis quelques années, les Anglais ont débarqué à Calais et arrivent sur Saint-Omer pour le regroupement, effectivement, de la balade direction Merville pour le vendredi soir.
Alors, il n'y a pas que des Anglais, hein, voilà. J'ai vu, dans le programme, il y a des Allemands.
Eh bien, on est ravis on avait les Néerlandais qui venaient quand même de manière très fidèle depuis quelques années, mais à 4-5. Et puis, ben voilà, c'est ça aussi qui fait les relations entre les pays. Cette année, on est ravis, ils vont être 26 et ça va être un beau groupe. Toute l'année, on a conversé pour arriver à les motiver et ils nous ont fait ce cadeau pour la 40e d'être si nombreux. Ils arrivent jeudi soir. Donc pour les organisateurs que nous sommes, ça démarre jeudi soir.
Disons que pour les spectateurs, hein, ceux qui veulent admirer toutes ces machines, hein, parce qu'il y a tout. Des triomphes, des vélocettes, des Harley.
Il y a beaucoup. Le mieux, c'est le dimanche. Ferme du Morgarin, rue de Verlinghem à Lambersart,
oui.
Ferme carré dans son style, et puis on va essayer de caser l'ensemble de tous les participants et toutes les motos, puisqu'on est 180 participants, donc on est en train de faire le décompte là, dans le programme qui va bientôt sortir dès demain, mais on doit avoir à peu près 145 machines qui pourront être alignées là, sur le parking.
Vous avez un point commun avec Benoît, avec la Fédé, en fait, finalement, vous organisez une manif, en fait, c'est un long...
Ouais. Donc je disais tout à l'heure, il va bientôt falloir mettre le rallye aura lieu sous réserve de pics de pollution, voilà, si je comprends bien. Risque d'être un peu plus compliqué.
Vous n'étiez pas au courant de cette vignette?
Bah si, on suit, mais plus avec la FVE, enfin, je suis aussi à la Fédération Française.
Il y a des exonérations pour les véhicules anciens d'époque, normalement.
Ils ne savent pas trop encore. Ouais. Partie des choses sur lesquelles on négocie encore. Parce qu'ils parlent de véhicules de collection, mais alors, un véhicule de collection, maintenant, le régime peut changer, parce que tu as des véhicules de collection récents, on va dire, qui pourraient être impactés par ces trucs-là. Et tu as des très vieux véhicules qui ne polluent pas plus qu'un véhicule récent. Donc voilà. Et puis, tu as des véhicules de collection qui roulent peu. Oui. Donc, est-ce qu'on va impacter des gens qui roulent peu, est-ce que voilà. Et puis mais ça, ils sont dans le flou artistique, hein, de toute façon c'est de la politique spectacle, ils savent pas, ils balancent un truc, ils disent bah c'est bon, les gens vont se calmer et puis
voilà. Alors nous on propose un spectacle familial et convivial.
Mais ça rien, on sera pas en colère.
Puisque, tu sais, hier la main, c'était convivial.
La catégorie reine pour la question de tout à l'heure, c'est la convivialité voilà. D'abord. Voilà. L'origine des vieux clous, c'est ça. C'est une bande de copains qui dit bah voilà, on est passionné de moto ancienne, on va faire un tour.
À l'origine de cette de l'association, parce que 40 ans, c'est quand même c'est énorme. Hein.
Bah voilà, c'est une bande de copains qui démarre comme ça, qui vont qui se mettent à plusieurs, et puis derrière il y a Gilles Détailleur qui l'organise, la propulse et fait que ça devient un événement effectivement. Moi je rappelle convivial et familial parce que c'est assez réjouissant de voir les gens qui viennent voir les expos. Il y a trois générations facilement qui regardent les motos. Pour certains, c'est des souvenirs. Et puis voilà quoi. C'est le premier objectif en fait.
La première balade, il y avait combien de participants?
C'est une colle, ça.
Ah, peut-être.
Moins nombreux qu'aujourd'hui. Ça va comme réponse statistique.
D'accord, la réponse.
Non, ils n'étaient pas si nombreux que ça. Voilà. Enfin, je veux dire, ça devait être une vingtaine. Il faudra que je pose la question à Gilles à nouveau qui va me dire pourquoi tu n'as pas préparé. Principalement des Français.
Très vite
avec les Anglais. Alors, ouais. C'était pareil. Au départ, il y a des traditions. C'était le vendredi, direction Le Ferry, et on rejoignait les Anglais de l'autre côté de la Manche. Bon, il a fallu aussi faire évoluer l'organisation. Je pense qu'une association, elle ne vit que si elle sait s'adapter, garder les finalités de départ et puis après prendre quelques aménagements. Donc on ne va plus en Angleterre pendant la balade parce que l'objectif aussi, c'est que ça reste une balade qui soit ouverte à tous. Et trois jours, même en serrant tous les prix, en ayant de temps en temps un sponsor qui veut bien nous donner un petit coup de pouce et des restaurateurs qui nous font des prix, ça devient quand même un petit budget. Donc on essaye de tenir compte de tout parce que c'est ça aussi qu'on veut. Ouais. Et puis maintenant, l'association a développé d'autres activités dans l'année. Ce qui veut dire qu'après la balade, pour les adhérents, dans 15 jours, on part en Angleterre, invité par nos amis anglais, pour un rallye qui s'appelle le Sittingbourne. Donc on va bien en Angleterre, on garde les traditions, mais on sépare les deux rallyes, puisque sinon ça deviendrait inabordable.
Donc quand on s'inscrit, cette balade, c'est un paquet, déjà, on s'inscrit, on a le repas, le couchage.
C'est toute l'organisation, il n'y a plus que l'essence dans le réservoir et la bière dans le verre de l'ami du soir.
Ah oui,
et j'insiste, bien dit, hein. Le soir. Le midi, c'est... les règles habituelles. Chacun est responsable, mais nous aussi. Donc, gardons l'ambiance. En plus. On fait entre 500 et 600 km sur les 3 jours.
C'est pas rien, sur des motos anciennes, sur les 3 jours. Il y a bien des motos modernes qui font pas ça en balade.
Nous, si. Ouais. Voilà. Et puis, il y a une équipe derrière, moi j'insiste, parce que les roadbooks, pareil, fournis bien évidemment à chaque participant. Donc, on a quand même une équipe qui passe un bon paquet de week-ends à ce que tout ça soit au point, en essayant de trouver toujours les petites routes et éviter départemental et national.
Qui peut s'inscrire à cette balade?
Tout le monde peut s'inscrire, je le rappelle.
Il y a des conditions quand même.
Il n'y en a pas. Ça fait un creux là, les motos anciennes à la confrérie des vieux clous, qu'on se le dise, c'est des motos de plus de 25 ans. C'est le résultat d'un débat et d'un respect de chacun. Et donc, il y avait des débats là-dessus. C'était d'un côté de dire, oh là là, mais il n'y a plus de jeunes qui viennent dans l'association. On va rester sur notre petit groupe de départ. Et comme dit l'autre, on prend un an chaque année. C'est une statistique qui a été absolument validée.
Ah, ça, c'est validé.
Et pour des jeunes qui veulent faire de la moto ancienne, le problème, c'est qu'il y a des prix qui montent aussi. Donc c'est de faire en sorte que chacun puisse partager la passion et pas de regarder dis-moi la marque de ta moto et je dirai si tu viens ou pas. Voilà. Donc c'est l'esprit qui domine et puis plus de 25 ans, ça vous pouvez calculer. Tiens, ça veut dire qu'il y a peut-être des japonaises qui peuvent rentrer.
Ah, ça rentre,
et la réponse c'est oui.
Et voilà.
Ouais. Voilà.
Ouais, parce que je me souviens
tout volcan.
Je l'attendais.
Non, parce que je me souviens il y avait quand même aussi un discours les vieux clous. Hein. La restauration, c'était à l'écrou d'origine, la vis d'origine. Si tu mettais pas la vis d'origine,
moi je peux comprendre. Je peux comprendre qu'il y a des gens
tu étais exclu de l'association.
Non, ça c'est un effet journalistique. Là, désolé.
Non. Il y a Claude qui est là, il peut dire que c'est...
Il cherche des soutiens.
Il a déjà des problèmes chez vous. Mais il y a très longtemps, en fait. Voilà.
Non, il y a le respect de chacun. Je pense que vraiment...
C'était pour rire. Voilà. Pour voir les machines, donc ce sera dimanche pour les spectateurs.
Le dimanche, c'est ce qu'il y a de mieux. Il y a même restauration sur place, puisqu'on sera là vers 13h, avec un petit passage dans la commune en convoi, ce qui rappellera des souvenirs, puisque à un moment donné, la balade, c'était un convoi qui ne s'arrêtait pas. Et par contre, les automobilistes étaient priés de pouvoir admirer les motos, et ils attendaient un quart d'heure au moins, puisqu'il y avait une centaine de machines qui leur passaient devant comme ça, tranquillement. C'était une époque, maintenant c'est roadbook tranquille, en respectant la circulation évidemment, et puis avec les points de ralliement que sont les repas, déjeuner et le soir.
Et puis à 12h, on sera en direct aussi, là-bas. Hein,
oui.
De la ferme.
On s'organise une petite table ronde avec témoignages sur le vif.
Quelque chose de bien. Je sais pas comment ça va marcher.
Et puis on va pouvoir voir où tu en es de ton anglais, puisqu'on va te mettre des néerlandais et quelques anglais. Moi, je trouverais ça sympathique. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il parle bien anglais.
Je propose qu'on vote ici même pour savoir si c'est bien la miche qui pose les questions en anglais.
Demandez à Nico de venir. Voilà. Et ça les fera rouler un petit peu. Et donc, on a dit le principal déjà sur cette balade, ce qui va se passer. Donc, ceux qui vont pas aller au Grand Prix de France, donc voir Stéphane.
Ah bah, ils ont une obligation, c'est venir à la confrérie. Oui. Puis on s'appellera pour vérifier.
on m'embrasse à ta performance. Combien tu as fait durant la course?
Tu
vas monter sur le podium, Stéphane.
On va faire au mieux. C'est qu'il y a des Français qui soient sur le podium en 600 et en 1000. Ouais. Nous, l'événement va commencer dès jeudi. Jeudi à 13h, on a un pré-event. Il va y avoir trois pilotes, dont le président de l'association italienne, un pilote colombien et moi-même, donc trois handicaps différents. On va faire trois tours de piste avec Johan Folger, Loris Bass,
Fabio
Quartararo.
Tous les Français.
Voilà. On va faire 3-4 tours de piste pour les médias. On va faire une photo de groupe avec tous les pilotes en combinaison et les pilotes du MotoGP. Le vendredi soir, les essais libres et les qualifications à 17h. Et le samedi soir, la course.
Quand je vous disais qu'il était têtu, c'est Stéphane.
Très bien.
Super, ouais, bravo.
Voilà. Donc on parle, on a presque plus de temps pour passer le morceau de musique. Éventuellement, on peut parler un peu Moto 2, Moto 3 peut-être.
Oui.
Avec des Français éventuellement, puisque c'est le Grand Prix de France.
En Moto 2, il n'y a pas grand-chose à dire, à part Quartararo qui a raté un peu son début de saison. Il ne marche pas très bien.
Alors il y a un problème avec ce pilote, parce que quand il est arrivé en Moto 3, il y a 2-3 ans, là.
On s'est dit, ça
va être le pilote qui va remporter toutes les courses, qui sera champion du monde en moto 3, 2, lui-même, il le disait.
Je pense qu'en changeant à chaque saison de moto et de team, c'est pas le bon choix. Enfin, pour moi, c'est pas le bon choix. Il faut qu'il se fasse à son équipe. Avant, il y avait une équipe bien précise, ça marchait bien la première saison. Et après, il a changé d'équipe, il a changé de team, il a vraiment mis les pieds un pied avant l'autre et j'ai cassé la figure.
Il rentre pas dans le top 10 à chaque fois.
Mais en même temps, Fabio, c'est sa première année en Moto 2.
On a dit ça en Moto 3 aussi.
Oui, mais il est pas si mal. Il a pas eu de bol. Il s'est fait percuter en Argentine et du coup, il a eu du mal à remonter. Il a perdu beaucoup de place. Mais autrement, il était dans le coup. Il est pas si mal. Je pense que le problème qu'il a, c'est il a 18 ans maintenant. Il se rend pas compte de l'implication qu'il faut et du travail qu'il faut pour réussir. Il a été montré comme étant quelqu'un d'hyper doué. Donc, il vit sur là-dessus.
C'est du travail.
En fait, pour y arriver,
il va confirmer.
Ouais, alors c'est du travail. Et connaissant Fabio Quartararo, il travaille beaucoup, il fait beaucoup de sport quotidiennement.
Non, mais après aussi au niveau de la technique aussi, savoir
l'implication. Par exemple, il était coaché par Randy Depugnette. Il l'a viré. Il y a eu toujours quelque chose dans son entourage. Là, son père revient, mais son père, c'est pas idéal comme coach. Je pense qu'il a un problème de il faudrait quelqu'un qui est plus à l'extérieur, qui puisse lui dire, là, il faut en mettre un coup. Il a besoin d'être poussé. Alors, effectivement, il a la condition physique, il est doué, il est dans un bon team, très bien, c'est vrai. Et il est dans le team, où.
Team Ponce.
C'est
Ponce.
Il
a un très bon team.
C'est quand même
Je pense que Fabio est jeune, il a un problème de régularité. Et je pense que c'est là qu'il va falloir qu'il travaille sur ses courses.
et peut-être un petit peu trop nerveux aussi, et du coup, bah, ça se paye.
À l'inverse de Darko, là.
Ah oui, ah non, mais ah c'est, oui, bah, c'est... là, c'est, on a deux opposés pour le ouais. coup. Ah, ouais. On a deux opposés, ouais.
C'est bon. Là. Et donc, après, en Moto 3, on a notre. Notre
Danilo.
Danilo, hein, de la région ici. Hein.
Ouais,
apparemment, il se plaint des problèmes de. Il n'a pas tout le matériel, les pneus, tout ça, qui ne vont pas bien. Et donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas être.
Lui aussi, est dans un bon team. Hein, il est dans le team de Fenati. On ne peut pas mieux. Hein, il est vraiment dans un très bon team. Alors, je pense que. Les premiers Grands Prix, c'était terrible. Là, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Il revient dans le top 10. On va voir. Peut-être que ça lui, les circuits à l'extérieur non européens ne lui convenaient pas. On va voir. Mais c'est vrai qu'il a du mal. Il est pas, l'an dernier, il a fait une belle progression. Et là, il ne confirme pas vraiment. Donc, on verra bien. Il y a un drôle de truc aussi qui s'est passé. C'est l'histoire du départ de Danny Kent.
Ça,
c'est bizarre.
C'est tout.
Danny Kent était en moto 2, et puis il s'est engueulé avec son team, et il arrête, et là il va être wildcard en moto 3.
Ah ouais.
Mais il avait déjà fait le coup, puisque c'est quelqu'un qui avait fait déjà du moto 2, il est revenu en moto 3 ensuite, pour être champion du monde. C'est un truc de fou. Plusieurs fois, il est monté moto 2, il est revenu en moto 3 ensuite. C'est très curieux. C'est vraiment une drôle d'histoire.
Bon, Stéphane, tu vois. Pronostic, allez, pour dimanche prochain, le Grand Prix de France au Mans.
Ah, dimanche
allez,
prochain.
Allez, MotoGP, on va parler.
En MotoGP.
On va mener à Benoît aussi, tiens.
C'est
Benoît de la FED.
C'est une bonne question, en plus, surtout que le Mans, le revêtement était refait. On a vraiment.
Alors, il paraît, oui, c'est.
Ça a été refait juste avant les 24 heures.
Il est fantastique.
Il paraît qu'il est hyper abrasif. Ah,
et quand,
hyper...
S'il fait sec.
Alors, si, ouais, alors non, mais même si.
Non, mais il colle.
En fait, il a deux. Il est super. Il y a un super grip sur le sec et il y a un super grip sur le mouillé. Le seul problème, c'est qu'il est long à sécher.
Il est long à sécher, oui.
Voilà. Je pense que les pendules vont descendre. Là, ça va, en MotoGP, ça va rouler sous les 30. L'année dernière, Lorenzo a roulé en 29-900. Je pense que là, ça va être...
Randy Depinot avait fait un temps canon en 24 heures.
En 24 heures, en 35-7.
Ouais, dingue.
Ce qui est incroyable. Ouais. Hein. Bah, je crois qu'il a fait son temps avec une moto d'endurance. Le temps qu'il avait fait en MotoGP, il y a
une... C'est infernal. Infernal. Ouais.
Donc, alors moi, mon pronostic, bah, je me dis... Soyons fous, on va dire un Zarco. Ça serait magnifique.
Moi, je suis. Je mets un billet sur Zarco.
Voilà. Zarco.
Non, je ne mets pas un billet, moi, sur Zarco, quand même pas. Mais
si.
J'aimerais bien qu'il monte sur la
S'il reste sur ses roues,
on va avoir Zarco, Vinales, Marquez et un Rossi 4e. Je pense que ça va.
Les Yamas sont toujours très bien.
Mais très bien. L'année passée, c'était Lorenzo qui a remporté le 2016.
Sur Yamaha.
Alors après, il faut que la météo se maintienne le dimanche. Enfin, voilà, il y a plein de paramètres.
Il y a des paramètres. Sur le boulot, tout ça.
Sec, allez, on se dit un petit Zarco, ça serait. Je pense qu'il va tout faire.
Tu te rends compte, attends, il y a une marche.
Sur le sec, moi je verrais plus sur. Séchante, on va dire.
Une piste
Non, mais, enfin, puisque c'est un très bon pilote
entre les deux. Ouais. Stéphane, si jamais il pleut, ça redistribue un peu les cartes.
Ça redistribue les cartes, au contraire.
Ouais. Les cartes.
Et là, peut-être, alors, bien que, je sais pas, Zarco sur la pluie.
Parce que moi, sur le sec, je verrais bien Vinales.
On n'a pas encore bien.
La Yama,
regardez un peu comment il se comporte.
Enfin, voilà, j'ai pas donné d'ordre, mais voilà, moi, quand je dis Zarco, Vinales, Marquez, voilà, ce trio, je pense un trio comme ça sur le.
Ouais, Benoît, alors que toi. Benoît, il fait des, mais il s'intéresse aux moteurs.
Nous, on aime tout. Hein,
ils aiment bien, dès que c'est de roues et un moteur,
voilà,
ça y est.
La moto, c'est...
On va demander à François aussi. Lui, il voit une vélo 7.
Il y en a plus,
François, de vélo 7 en Grand Prix moto.
Il faut pas dire Surtees, hein, puisqu'il y a une chose qu'on a oubliée la dernière fois, c'est que Surtees, il est décédé le mois dernier. C'était le seul pilote qui a été champion du monde moto Grand Prix et...
Et voiture.
Et Formule 1.
Et Formule 1.
Formule 1.
Voilà, ouais.
Michael Wood a fait de la Formule 1, mais il a gagné des grands prix, mais il n'a pas été champion du monde.
Il a été quatrième au championnat du monde F1.
On a posé une question à Benoît. Hein.
Moi je reste sur ma position, je mets Zarco en tête.
Si,
moi j'y crois.
Alors attendez,
je sais qu'il peut, il peut le faire. Par contre après, moi je suis Rossi depuis des années, donc j'aimerais bien qu'il nous fasse un podium parce qu'il y a toujours un spectacle formidable quand Rossi arrive sur le podium. Mais je trouve qu'en France, il adore la piste française.
Il est toujours bien, non?
Donc voilà, moi j'aimerais bien que Rossi soit là. Vinales parce qu'il est jeune, mais il y en a plein d'autres.
Hein. Vinales, il a fait son premier podium l'an dernier, il aime bien le Mans aussi.
Zarco, Rossi et Vinales.
Vous mettez tous Zarco, c'est pas possible. Attendez les gars.
Faut les aider.
Allez Nico, dépêche-toi, il reste 3 minutes.
Non, mais moi je suis d'accord, je trouve que
c'est
un podium idéal.
Non. Et toi, Claude?
Alors ça dépend le temps.
M'en doutez qu'elle y a ça.
Ça dépend du temps.
Sur le sec, avec Vinales, Marquez.
Une réponse franche et claire.
Vinales, Marquez et peut-être Rossi en troisième. Ouais.
Et pas Zarco alors ? Sur le podium ?
Zarco, non, non. Sur le sec, non.
T'as confiance en personne ? C'est pas possible.
Non, je suis lucide, surtout.
Bon, ben écoute, il nous reste que François. Alors,
moi, je vous propose un magnifique challenge. C'est le 21 mai, donc à partir de 13h, de voir la miche, poser des questions en anglais. Et je pense que je vais lui offrir la nouvelle casquette de la confrérie. Donc venez tous, c'est un moment inoubliable.
J'aimerais que tu nous dises une interview. Alors. J'aimerais que tu répondes à ma question. Ton pronostic pour dimanche prochain.
Moi, pour ce que je viens d'apprendre ce matin, je suis très franco-français, donc le Zarco me paraît
très bien. Très bien. Ouais, c'est tout ce que je voulais savoir. Merci. Bon, on va poser une question quand même féminine, quand même. Donc, Christine, tu vois qui ?
Rossi, Zarco, Vinales.
Rossi, hein. Ah oui, t'aimes bien aussi, hein. C'est ton pilote fétiche.
Ah, bientôt, Zarco sera mon pilote favori, mais encore Rossi.
Il ne faut pas oublier quand même Loris Baz.
Et Loris Baz, oui. Alors, Loris Baz.
Il n'y a pas que.
Oui. Voilà, ouais. Voilà, ils seront là.
Attention, il y a Gattoli aussi, hein, qui sera là aussi, mais bon.
Ça va être compliqué.
Ils vont avoir envie de bien faire, ça va être dur pour eux.
Mais là, c'est des pilotes français, on a la chance d'avoir trois pilotes français, on va y avoir tous les
Exactement, exactement.
Bon voilà, je sais pas où on en est au niveau du temps.
Il reste 2 minutes.
Donc on a encore un peu de choses à dire. François, on va donner un peu vite la parole. Donc rendez-vous pour les spectateurs, venir voir le.
Le mieux c'est le dimanche.
Dimanche, hein, c'est
13h. Il y aura un petit convoi.
Après le repas, pour la petite balade,
manger sur place. Ou manger tout à fait possible. Voilà. C'est dans une ambiance, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, très conviviale.
On peut encore s'inscrire à la balade si on veut participer, être actif.
Là, ça grince énormément quand même. Oui, oui. J'ai déjà le pic de pollution depuis 10 minutes. Ça fait beaucoup à gérer quand même. Mais bon, là, c'est bouclé.
On a vu que Benoît, il y a une sacoche pleine de vignettes.
D'accord. Non, mais moi, ce qui me fait toujours sourire, c'est qu'on a, un copain sur la région parisienne qui est très, très à cheval sur les voies. Et il constate que quand les anciennes roulent à Paris le week-end, c'est pas plus pollué que les autres jours.
Voilà. Mais
donc, c'est pas les. Voilà, bon, il y a aucun problème pour les anciennes.
Affaire à suivre. Et les premiers dimanches, hein, à Campus, c'est avec notre ami Jean-Yves
Balois.
Oui. Parce que alors lui aussi il est très Bon voilà, il nous reste 10 secondes. Merci de nous avoir écoutés et puis surtout rendez-vous dimanche prochain et on sera en direct hein, à partir de midi hein, normalement hein,
à partir de midi. De soucis, voilà. On s'organise en conséquence.
Merci, au revoir, merci Stéphane, et bonne chance,
merci,
au revoir.
Merci.